Bonjour. Bonjour à chacun et chacune pour ce dimanche matin. Bienvenue. Bienvenue pour ce culte qui est en grande partie fait par le groupe de jeunes cet été, le groupe de jeunes de cette église. Et puisque justement la vie de notre église n'est pas que ce dimanche matin, nous vous invitons directement à écouter nos annonces. Et première annonce, Mélina, dis-nous, c'est bientôt Noël, non ?
Mais oui, Elliot, c'est bientôt Noël. Alors, et par rapport à ça, on a une petite annonce. On aurait besoin de sucré et salé pour le culte du 17 décembre. Parce que qui dit Noël dit repas en famille, on veut manger ensemble et passer du bon temps. Et donc, on a besoin de gens qui soient prêts à nous aider à faire la collation. Alors, sur les panneaux du foyer, vous verrez, il y a des petits tickets à retirer si vous voulez aider à faire des petites choses à manger. Si vous avez des questions en plus, vous pouvez vous adresser à Claire-Lise Cérex, que je ne vois pas, mais qui est là, pardon, en plus debout. Mais voilà. Voilà. Et en parlant de Noël, qui dit Noël dit hiver, qui dit hiver dit camp de ski. Elliot, que peux-tu nous dire par rapport au camp de ski ?
Le camp de ski du groupe de jeunes, qui donc fait le culte de ce matin, comme j'ai dit juste avant, a lieu du 27 décembre au 3 janvier 2024 à la station des Diablerets. Première chose, j'ai une bonne nouvelle. La semaine passée, on avait fait une annonce du coup à propos du fait qu'on n'avait pas de cuisinier, et finalement, on a pu en trouver. Donc voilà, une équipe de 3 cuisiniers qui nous accompagnera pendant ce camp. Bonne nouvelle. Ce que je peux dire de plus aussi par rapport à ce camp, c'est qu'on a des places encore. Donc si vous avez des jeunes de 15 à 25 ans qui seraient intéressés par un camp de ski durant cette période, n'hésitez pas à leur en parler ou à passer le contact de Mélina ou moi ou Maïka qui peut se lever. Voilà. Oui, pardon.
Et en parlant de jeunesse, Elliot, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre par rapport aux jeunes ?
La dernière annonce que je vais faire, c'est une annonce qui concerne directement ce matin. Au cas où, pour les parents qui ont des enfants en bas âge, derrière, au fond à droite, il y a un petit coin avec un tapis pour les parents qui veulent s'installer. Le foyer restera aussi également à disposition avec les portes ouvertes au cas où ils veulent écouter le culte. Donc, voilà. Je vous invite maintenant à remettre ce culte dans la prière. Seigneur, merci parce qu'on peut être réunis ensemble, ici. Je te remets voilà, ce moment qu'on va pouvoir passer ensemble, ce moment où on va pouvoir recevoir des témoignages des différentes personnes du groupe de jeunes. Je te remets aussi... Philippe, dans sa prédication, et différentes personnes qui participent à ce culte. Je te remets également l'Assemblée, qu'elle puisse voilà, être dans une bonne disposition pour recevoir tout ce que tu vas leur dire, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, Amen.
L'équipe louange. et à écouter les deux premiers témoignages de nos jeunes. Ah, pardon, les enfants. C'est mon tour. Ok. Et avant d'écouter les deux témoignages, on va prendre juste un petit temps de prière pour remettre les enfants pour qu'ils puissent aller à leurs activités respectives. Seigneur, merci pour les enfants, merci pour leur présence, merci pour ce qu'ils peuvent faire et parce qu'ils peuvent grandir en toi et apprendre à te connaître. On veut te remettre toutes les personnes qui s'occupent d'eux, surtout ce dimanche matin, que tu puisses les remplir de ta patience et de ton amour et que les enfants puissent profiter de ce temps de louange aussi. Amen.
Bonjour, donc je m'appelle Camille, j'ai 18 ans, je suis en troisième année de collège et l'année passée, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis partie en Irlande dans le cadre de ma maturité en bilingue. Et honnêtement, il n'y a rien de plus fou que de se lancer dans une telle aventure. Il faut dire que je n'étais pas quelqu'un qui avait fait beaucoup de camps ou qui avait l'habitude de sortir ou qui avait l'habitude et surtout le courage de se lancer dans des aventures folles ou dans des projets aussi fous. J'ai toujours été plutôt du genre à rester à la maison et à passer du temps avec ma famille. Et au premier abord, le fait de partir loin de ma famille, de mes amis, loin de mon chez-moi, était juste terrifiant et j'avais peur de ne pas en être capable. Je craignais de partir et de revenir quelques semaines plus tard. Je me disais qu'en fait, je ne tiendrais juste pas. Et en fait, en partant, j'ai découvert qu'en fait, j'en étais totalement capable, même si parfois, la vie n'était pas toute rose, mais j'ai réussi. Et comment j'ai réussi ? Eh bien, c'est tout simple. Je me suis accrochée chaque jour encore plus à Dieu et j'ai appris à remettre tout ce qui n'allait pas dans les mains de Dieu. J'ai appris à lui faire confiance et à le laisser me surprendre par toutes les belles choses qu'il avait préparées pour moi. J'ai découvert en lui un consolateur dans les moments de tristesse, un ami dans les moments de solitude comme dans les moments de joie, un refuge, une maison dans laquelle me réfugier lorsque j'avais peur. Et par cette expérience, j'ai aussi découvert le véritable sens de ce que voulait dire une famille en Christ. J'ai rejoint une église formidable là-bas et dès l'instant où j'y ai mis les pieds, j'ai vraiment eu l'impression de me sentir à la maison, entourée de personnes de confiance. J'ai eu l'impression de me retrouver entourée de ma famille, une famille immense que je ne cesserai de trouver partout où j'irai et que d'ailleurs j'ai retrouvée en revenant ici. Et c'est alors que j'ai réalisé la chance que j'avais de connaître ce Dieu si bon et si aimant, la chance que j'avais d'avoir en tout temps un ami fidèle sur qui compter et une famille avec qui échanger, partager et vivre la vie que Dieu nous invitait à vivre.
Bonjour, donc, vous m'avez vu la semaine dernière, donc Maïka Negreni. Je suis revenue ici il y a 4 ans et demi. Avant, j'ai grandi en tant qu'enfant missionnaire. Et donc, en tant qu'enfant missionnaire, il y avait toujours cet idéal de ce qu'était un témoignage pour moi, de cette personne qui changeait des vies au jour le jour. Mon père, c'était ce qui se faisait, ce travail en tant que chirurgien. Il changeait les vies des enfants qu'il voyait tous les jours. Et pour moi, c'était longtemps... ce qu'il fallait que je fasse aussi de ma vie, c'est que tous les jours ou de manière régulière, je vois des vies transformées à travers mon témoignage. En venant ici, avec plusieurs années de maturité et beaucoup de discussions aussi avec mon père par rapport à ce qu'il a vécu au Niger, au Bangladesh et à ce qui se vit ici aussi, j'ai appris qu'il y a un autre témoignage qui est beaucoup plus important et qui en fait passe beaucoup plus inaperçu. Et c'est celui de l'amour avant toute chose. Lui, ce qu'on voyait de son travail, c'est qu'il changeait des villes, il faisait des opérations qui permettaient à des enfants de boire, de manger, d'interagir avec leur famille et leur village de manière normale. Mais tout ce qui se passait en coulisses, dans ses interactions avec ses infirmières, dans les discussions qu'il avait de manière régulière, sa manière de traiter le staff... toutes ces choses-là, en fait, on ne les voit pas nécessairement. Mais en discutant avec lui, en apprenant à connaître un petit peu, on les découvre. Et on voit qu'il a eu un impact. Et il y a, en fait, toute cette, ouais, dans ce choix d'être lui-même, de proclamer l'amour de Dieu avant toute chose, qu'il ait une infirmière chrétienne ou musulmane en face de lui, il les traitait de la même manière. Et de montrer cette joie de Christ, ce choix que Jésus nous appelle à vivre, d'être amour avant tout. Pour moi, c'est ce qui est le plus important en fait, dans son témoignage et ce que je veux vivre aussi dans ma vie. Et je pense qu'on peut tous avoir ce témoignage-là. Moi, je travaille à la Migros et pour moi, ça ressemble à simplement être heureuse, montrer le sourire aux gens que je croise, même si je suis peut-être fatiguée ou quoi, mais de toujours être joyeuse, d'aider les gens qui viennent me poser des questions et de choisir d'être en fait une lumière comme je peux l'être, en tout cas à mon niveau.
Vous pouvez vous relever si vous voulez. J'ajoute juste un petit mot par rapport à ce chant. Vous le connaissez peut-être pas. C'est mon chant préféré. J'ai grandi avec et je me suis rendu compte que tout le monde ici n'a pas grandi avec. Donc, je vous invite à essayer de le chanter avec nous et en tout cas de... Ouais, que je prie pour que les paroles puissent vous toucher autant qu'elles me touchent.
Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey et j'ai 23 ans. Je vais au groupe de jeunes cet été depuis presque 2 ans. Et là-bas, j'ai trouvé une famille de cœur. Et je suis tellement reconnaissante d'avoir chacun d'entre eux dans ma vie, parce qu'ils m'apportent tellement chacun à leur manière. Je suis née avec un handicap, le spina bifida. Alors, je vois vos visages. Vous êtes tous en train de vous dire « Le hein, quoi ? Le spi quoi ?» Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Avant ma naissance, les médecins ont dit à mes parents que ce handicap aurait des conséquences mentales et physiques. Ils ont fortement conseillé de ne pas me garder. Mais mes parents ont fait le choix de ne pas interrompre la grossesse, car ils savaient que Dieu avait un plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je suis debout devant vous et j'en suis très reconnaissante. Auprès des médecins, je suis une preuve vivante que Dieu a fait des miracles dans mon corps et dans ma vie. Malgré ce handicap et tout ce que cela implique, je décide, avec l'aide de Dieu, de continuer à aller de l'avant. En agissant de cette façon, je peux être un témoignage et une source d'encouragement pour ceux qui m'entourent. Je peux montrer qu'avec l'aide de Dieu, il est possible de continuer à vivre malgré un handicap. Ayant un travail à mi-temps, j'ai du temps libre pour faire du bénévolat. Je donne des cours de français à des étrangers et j'aide aussi à la bibliothèque de mon village. Dieu m'utilise auprès des personnes que je rencontre pour montrer son amour à travers mon comportement et le temps que je prends pour les aider. Lorsque je suis arrivée à la bibliothèque, le responsable qui venait de la reprendre allait se retrouver seul pour tout gérer. Je m'étais présentée sans qu'il y ait une demande de bénévolat et sans savoir la situation. Dieu m'a poussée à y aller, car il savait qu'il y avait un besoin à cet endroit. Cela m'a permis de que les choses sont bien guidées. Je pense qu'il n'est pas toujours nécessaire de vouloir à tout prix parler de Dieu, mais que notre comportement suffit pour être un témoignage de son amour. Pour terminer, j'aimerais vous laisser quelques versets du psaume 139. Les deux premiers versets étaient sur mon faire-part de naissance. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât.
Je suis à nouveau sur scène, mais ce n'est pas pour mon témoignage. Est-ce que tu veux quand même te présenter ? C'est ce que je fais.
Non, vas-y.
Alors, vous voyez à côté de moi une personne très jolie, très timide. Je vais donc être sa voix ce matin. Voici Sarah, qui est une jeune du groupe de jeunes. Et voici un peu son histoire. Alors, je l'ai noté, hein, c'est pas moi qui improvise. Alors, à la base, j'étais musulmane. Musulmane de naissance. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là, sauf que ma famille n'est pas pratiquante. Donc, j'ai appris l'islam de moi-même et j'ai toujours senti qu'il manquait un peu quelque chose et que j'étais pas exactement à ma place. Puis un jour, un homme de mon âge m'a ajouté sur Insta. Instagram, c'est une application sur les téléphones, au cas où. C'est donc un réseau social. On a tendance à ne pas voir ça d'un bon œil. Donc voilà, un jeune homme m'ajoute sur Insta et il commence à me parler de Jésus. Il me parle de Jésus et de tous les bienfaits qu'il peut faire. Et il prie pour que le Seigneur me montre la bonne direction. Et à ce moment-là, il m'avait expliqué pourquoi croire en Jésus. Pourquoi choisir le christianisme et pourquoi c'est le chemin de la vérité. Quand j'ai écouté ça, j'ai été touchée. Et je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie. Puis cette personne me demande de lire la Bible pour essayer de comprendre. Et il m'explique que si je ne comprends rien, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore le Saint-Esprit pour m'aider à comprendre réellement ce que je lis. Alors une nuit, je demande à Dieu de me montrer le vrai chemin. Et quand je me suis endormie, j'ai vu Jésus. Tout était lumineux et il me montrait pourquoi croire en lui. Depuis ce jour-là, j'ai décidé de croire en lui car je me suis dit que le voir était incroyable et que je me sentais d'un coup prête à l'accepter dans ma vie. Ce jour-là, j'ai relu ma Bible et j'ai tout compris. Puis plusieurs signes sont apparus, comme des personnes qui priaient juste à côté de moi, genre vraiment collées à moi, alors que l'endroit n'était pas spécialement propice à ça, ou des personnes qui sans cesse me parlaient de Jésus. Et enfin, le jour où je suis rentrée dans une église, j'ai eu une sensation étrange, mais aussi un soulagement. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de croire à jamais en lui.
Bonjour à chacun, à chacune. Merci beaucoup. Cet été, pas le cet été, mais cet été, je commence à intégrer. Merci beaucoup pour ce que vous avez préparé, partagé. C'est un honneur de cheminer un tant soit peu avec vous et je me réjouis de voir ce que le Seigneur tient encore en réserve pour vous. Nous arrivons ce matin au terme de la série entamée au mois de septembre intitulée « Motivé par l'essentiel ». Au cours de cette série, nous avons beaucoup parlé de ce que Dieu est et de ce que Dieu fait pour nous. Son amour, sa grâce, sa générosité, son implication millimétrée dans nos vies. Et nous avons aussi évoqué la façon dont nous pouvons, dont nous voulons y répondre. Laurent Sitariva, merci beaucoup. Pour ce matin, nous avons comme thème de réflexion non plus ce que Dieu est et fait, mais notre mission dans le monde. Ce qui est déjà transparu, je trouve, dans vos quatre témoignages. Notre mission en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Votre mission, si vous l'acceptez, est possible. Une mission possible. Quand on pense à la mission, il serait assez tentant pour moi de commencer avec l'une des dernières paroles, si ce n'est la dernière, que Jésus a adressée à ses apôtres. Quand Jésus dit à ses apôtres, allez dans le monde entier et faites des disciples de toutes les nations. C'est assez tentant de commencer avec cette parole forte. Mais si je fais cela, si je commence par là, je cours en même temps le risque de vous laisser avec deux idées fausses. La première idée fausse avec laquelle je pourrais vous laisser, c'est que vous pourriez penser que cette vision pour le monde entier commence seulement aux alentours de l'an 30 de notre ère. La mission commencerait avec ces paroles du Christ-là. Et la deuxième erreur que nous pourrions commettre, c'est de penser que cette parole-là ne concerne que les apôtres et quelques autres spécialistes de l'évangélisation estampillée Billy Graham, par exemple. Mais en fait, cette vision pour toutes les nations de la terre, elle remonte aux toutes premières pages de la Bible. Abraham, le père des croyants, toutes tendances confondues, Abraham doit être une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Pas seulement pour un petit peuple, pour toutes les nations de la terre. Lors de la sortie d'Égypte, Dieu dit à Moïse que cette sortie d'Égypte sera un témoignage à l'échelle de la planète entière. Encore une fois, pas réservé à un petit peuple, mais pour toute la terre. David, dans les psaumes, dit je ne sais combien de fois qu'il va annoncer la gloire de Dieu aux nations et il invite ces nations à proclamer la gloire de Dieu. Et le prophète Ésaïe dit du serviteur qui doit venir qu'il va établir la justice pour les nations, qu'il ne faiblira pas, qu'il ne ploiera pas, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur toute la terre. Et là, Le prophète Ésaïe dit que ce serviteur à venir, qui est venu, nous allons le célébrer à Noël. Mais à ce moment-là, dans sa prophétie, Ésaïe dit que Dieu établit son serviteur pour être la lumière des nations, afin que son salut parvienne aux extrémités de la terre. La mission, c'est donc le projet de Dieu depuis toujours. Pas depuis Matthieu 28. Pas depuis David. Pas depuis Ésaïe. Pas depuis Moïse. Depuis Abraham. Et probablement même avant. Une mission qui concerne le monde entier. Et si Jésus s'adresse d'abord aux apôtres, c'est parce que toute l'Église ensuite est concernée. Parce que nous sommes, nous, le peuple du Messie. Et c'est nous, nous tous et toutes, c'est nous qui sommes censés être aujourd'hui la lumière du monde, la lumière des nations. Acte 13, verset 47. Cette parole qui concernait d'abord le Christ est ensuite étendue à l'Église, à nous tous et toutes. À la suite du Christ, nous sommes lumière du monde. Alors, Dieu nous a créés pour une relation d'amour avec lui. Il nous a appelés à nous aimer les uns les autres. Il nous a appelés à devenir semblables à Jésus-Christ. Il nous a conçus pour le servir dans l'Église. Et maintenant, il nous envoie dans le monde avec une mission. À partir du moment où nous portons son nom, nous le représentons dans le monde. On le fait bien, on le fait mal, mais on le représente, individuellement et en tant qu'Église. Si je suis chrétien, je suis un petit Christ. Si je suis dans une Église chrétienne, je représente au travers de cette Église le Christ. Un aspect de la chose, c'est que nous vivons tranquillement notre vie. Nous élevons nos enfants. Nous travaillons le plus sérieusement possible. Nous faisons voir dans notre humanité ce que Dieu veut faire pour les hommes. Le chrétien, la chrétienne, même à la caisse de la Migros, même dans sa salle de fac, même dans son champ, même dans son bureau, le chrétien, la chrétienne, c'est un échantillon de la grâce de Dieu. Un échantillon. Et un autre aspect de la chose, c'est que nous portons une responsabilité collective pour que l'Évangile parvienne jusqu'au moindre recoin de Mérin, jusqu'au moindre recoin de la planète. Nous portons une responsabilité collective. Jésus a donc dit à ses apôtres, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » De la même manière, nous les chrétiens et les chrétiennes, nous avons une responsabilité envers ceux qui sont nos plus proches, notre Jérusalem, envers ceux qui sont un peu plus loin, la Judée et la Samarie, et envers ceux qui sont très loin, aux extrémités du monde. Nous ne sommes pas tous des apôtres au sens biblique du terme, mais nous sommes tous et toutes des témoins, des ambassadeurs, des ambassadrices. La bonne nouvelle de Jésus-Christ doit parvenir aux extrémités du monde. Notre Dieu est en train de construire une famille sans frontières. Camille l'a expérimenté pendant son séjour en Irlande. Une famille sans frontières. Elle est composée, cette famille, de gens comme vous et moi, qui l'aiment, qui lui font confiance, qui tentent de marcher avec lui imparfaitement, bienvenue au club, et qui, à l'arrivée, vont passer l'éternité avec lui. Et Dieu dit qu'il veut, comme membres de sa famille, des gens de toutes les nations. C'est le plan de Dieu depuis le début. Dieu est mondialiste, bien avant nous. Ou pour le dire autrement, avec les mots de l'apôtre Paul, Éphésiens 3, verset 11, c'est le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous sommes, vous et moi, participants de ce dessein éternel. Je trouve ça formidablement encourageant, formidablement responsabilisant. Nous sommes témoins dans le monde. Être témoin auprès de ceux qui font partie de notre monde à nous, notre Jérusalem. Être témoin en allant au-delà de notre univers personnel, en Judée, en Samarie. Être témoin en prenant à cœur le projet de Dieu pour le monde entier. Être témoin dans mon monde à moi. Le point de départ, il est là. Je suis appelé à être témoin, moi, dans mon monde à moi. Un jour, Jésus a guéri un homme terriblement perturbé, Luc 8. Un homme habité par une armée de démons. Cet homme voulait ensuite faire route avec Jésus et avec les 12. Mais Jésus lui dit ceci. Luc 8, 39, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Et la Bible dit que l'homme s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Retourne dans ta maison. La mission, elle commence là. Je crois que Jésus nous dit la même chose à nous. Retourne dans ta maison. Notre mission commence à la maison, dans la famille, dans notre quartier, dans notre propre ville, ici à Mérin. Sans orgueil, je ne suis pas meilleur que les autres. Il y a même des non-croyants, des non-chrétiens qui me dépassent allègrement et à quelque part ça me gêne, ça me fait un peu honte. Donc sans orgueil, sans prosélytisme, nous pouvons simplement dire, montrer comme témoins ce que nous avons vécu, comment nous voyons la vie, comment nous traversons nos épreuves, ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu est pour nous. Nous pouvons dire l'avant et l'après notre conversion, même si on est tombé dans la marmite en étant petit. Même si on a grandi dans un contexte évangélique, il y a des trucs qui changent avec la conversion. On peut le dire. On peut inviter les gens à notre baptême. Nous pouvons dire aussi qu'être au culte pour louer Dieu, c'est encore mieux que faire 15 kilomètres de randonnée ou de voir la danse nuptiale des grèbes huppées dans une réserve naturelle. Parce que la danse nuptiale des grèbes huppées dans une réserve naturelle, il y a peut-être un autre moment où je peux y aller. Mais le dimanche, être au culte, louer Dieu ensemble, c'est glorieux. Et puis, nous pouvons mettre en pratique 1 Pierre 3, verset 15. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect, toujours prêt à défendre notre espérance. Avec humilité, on ne vient pas en conquérant. On n'a rien à imposer à personne. Avec humilité et respect. L'autre, je le respecte, même s'il ne croit pas comme moi, même s'il me rentre dans le chou. Avec humilité et respect, toujours prêt à défendre notre espérance. Ce qui veut dire que ce soit dans le contexte d'une discussion ouverte, amicale, ou que ce soit dans le contexte des piques ou des agressions que certains vivent au quotidien, je me tiens prêt à dire pourquoi je suis chrétien, chrétienne. on ne gagnera peut-être jamais le respect de celui, celle qui nous agresse. Mais d'expérience, je sais qu'on nous observe. Notre façon de répondre, le contenu de notre réponse peut finalement toucher quelqu'un. Il y a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant, nous faisions, Heidi et moi, avec quelques autres, partie d'un groupe qui faisait de l'évangélisation dans la rue. On était dingos. On faisait des sketchs à la gare Cornavin le samedi soir. Et puis, des trucs, on y allait comme des fous, quoi. Puis on avait 15 ans, 20 ans, c'est différent. Et je venais de commencer un travail qui, pour moi, était un aboutissement dans ma recherche de travail. Et je me rappellerai toute ma vie qu'un soir à Cornavin, en train de faire un de ces sketchs où je levais les mains, le monde est à moi, ça s'appelait. Le gars qui descend l'escalator, c'est mon chef. Puis, mais comme si c'était hier, hein, le gars il fait comme ça. Puis il trace sa route. Et le lundi au travail, j'ai été convoqué. Ça, plus jamais. Vous êtes dans une entreprise qui a une marque, plus jamais, je ne veux plus jamais vous voir faire ça. Puis, t'es fou quand t'as 18, 19 ans, quoi. Tu résistes au truc, le gars, c'était chaud. Et la veille de mon départ de cette entreprise pour faire mes études en théo, je rencontre cette personne qui me dit, mais tu ne te rends même pas compte comme c'est la misère dans ma vie. Je me souviendrai toujours de ce que tu as dit ce soir-là. Et sa vie a changé. Il n'a pas fallu grand-chose. Et franchement, j'ai été défaillant dans tellement de domaines. Mais la grâce de Dieu a abondé. Pierre dit aussi, 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent au salut. Dieu ne veut pas qu'un seul périsse. Alors je sais qu'il n'est pas toujours facile pour nous de garder en tension la souveraineté d'un Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé et puis la responsabilité personnelle. Je ne rentre pas dans le détail des choses maintenant, mais je sais qu'on a une tension. Ce que je retiens, c'est que Dieu aime les gens. Dieu aime les gens. Et qu'il ne veut pas perdre un seul de ces gens. Et si je veux lui ressembler, alors je dois apprendre à aimer les gens comme lui. Maintenant, nous avons été conçus pour accomplir une mission. Je veux être témoin dans mon monde à moi, dans ma Jérusalem à moi, avec ceux qui font partie de mon petit univers personnel, mes voisins, mes collègues, mes amis, ma famille. Mais ça ne suffit pas. Je dois oser évangéliser au-delà de mon monde. L'amour me demande d'aller vers des gens issus de milieux différents, ayant une éducation différente, une autre langue, appartenant à une autre catégorie socio-professionnelle. Notre mission a de telles répercussions éternelles que nous devons être prêts à tout risquer pour partager le message de l'Évangile. Si moi j'avais un remède infaillible contre le cancer, je le crierais sur les toits. Je n'aurais de cesse de le proclamer autour de moi. Ce serait un crime contre l'humanité que de garder un tel secret pour moi. Et il se trouve que j'ai quelque chose de plus important encore qu'un remède contre le cancer. Je connais le chemin vers la vie éternelle. Je le dis humblement, mais je connais le chemin vers la vie éternelle. Quelqu'un un jour m'en a parlé. Quelqu'un m'aimait assez pour m'en parler. Instagram n'existait pas à l'époque, ça se faisait autrement. Mais ça a marché de la même façon, Sarah. Quelqu'un un jour m'a parlé de Jésus. Quelqu'un m'a dit que je pouvais être sauvé, que je pouvais connaître la vie éternelle, l'intimité avec Dieu. Quelqu'un m'aimait assez pour le faire. Je vais donc aimer les autres suffisamment pour leur en parler aussi. L'apôtre Paul, encore lui, nous en donne l'exemple. Lui qui était un juif orthodoxe, son éducation était juive orthodoxe. Il s'est adapté aux païens. Il a dit « Je me fais tout à tous afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. » 1 Corinthiens 9, 22. En d'autres termes, je ne passe pas mon temps seulement avec des gens qui me ressemblent. Les chrétiens sont appelés à construire des passerelles, des ponts et pas des murs. Aime ton prochain comme toi-même. Pour un Samaritain, son prochain, c'était ce juif blessé qui baignait dans son sang au bord de la route. Pour un jeune, son prochain, c'est peut-être une personne âgée. Et inversement. Pour un Suisse, son prochain, c'est peut-être un Français, qui sait, ou un Albanais, ou un Somalien. Je dois oser aller au-delà de mon monde à moi. Paul écrit aux Galates, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, en vous aidant à porter vos fardeaux, vous accomplirez la loi du Christ. » Ah bon ? Et quelle est cette loi ? Ah, Paul répond, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La Bible dit, « La religion authentique et pure aux yeux de Dieu le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. » Alors nous, les chrétiens évangéliques, sur la corruption du monde, on est super, super à la page. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On est très doués pour dire on ne va pas se laisser corrompre, nous. Mais c'est aussi aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. Et je crois que sur ce pan-là, nous sommes souvent défaillants. Jésus, lui, a toujours défendu les personnes que la société ignorait. Les plus démunis, les pauvres, les délaissés, les prisonniers, les orphelins, les veuves, les veufs, les personnes âgées, les malades mentaux, les parias de la société, les lépreux. Et je crois que si Jésus vivait de nos jours parmi nous, il passerait son temps avec ceux qui sont atteints du sida, avec des SDF, avec des migrants, avec tous ceux qui sont mis en marge de la société. C'est avec eux, avec elles, qu'il serait. Un jour, vous et moi, nous allons nous tenir devant Dieu. Ce jour-là, la Bible nous dit qu'il fera comme un audit de nos vies et qu'il jugera si nous avons vraiment appris à aimer ou si ce n'était que des vaines paroles. La Bible dit qu'un jour, Jésus va séparer les gens en deux groupes. Et il dira à un groupe, « J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. » Et les gens vont dire, « Mais quand avons-nous vu faire ça, Seigneur ?» Et il leur répondra, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Lorsque nous donnons un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui a soif, ou encore mieux, lorsque nous forons un puits, lorsque nous parrainons un enfant à l'autre bout du monde, Jésus dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand nous montrons même imparfaitement notre solidarité avec une personne seule, malade, exclue, en péril, c'est comme si nous le faisions à Jésus. Des fois, en faisant un geste pareil, nous aurons l'occasion de témoigner de notre foi, et des fois pas. Et puis c'est pas grave. Le plus important, c'est pas de dire, c'est d'aimer et de commencer à sortir de notre cercle immédiat pour aller voir des gens différents. Aller au-delà de mon monde, à moi. Et enfin, l'Église est appelée à être la lumière des nations. Je dois me préoccuper du monde entier. Oh là ! Comment c'est possible ? Comment c'est possible pour nous de nous préoccuper du monde entier ? Si moi je deviens missionnaire en Thaïlande, je ne peux pas en même temps m'occuper d'une école en RDC. Si j'élève mes enfants en banlieue genevoise, je ne peux pas en même temps m'occuper des lépreux à Calcutta. Je ne peux pas réconforter en même temps des prisonniers en Corée du Nord. Je ne peux pas fonder une église à Bangkok si je suis le pasteur d'une église locale à Mérin, même si j'aimerais bien. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Ou plus exactement, je ne peux pas tout faire tout seul. Mais j'ai des millions de frères et sœurs. Des millions. Et ensemble, on peut tout faire. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Faites des disciples parmi toutes les nations. Ce n'est que pour les apôtres. Ce n'est que pour les missionnaires, pour les professionnels. Mais non. Pour un missionnaire qui part, il doit y avoir des dizaines de chrétiens lambda qui prient, qui donnent un peu de leur argent, qui entretiennent la vision missionnaire au sein même de leur église locale. Jésus a dit ceci, Matthieu 8, 35, Marc 8, 35. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Quand on réfléchit à la mission, ça c'est le texte qui résume tout. Donner notre vie pour la bonne nouvelle. C'est le secret d'une vie bien remplie. Dans le magnifique temple de Jérusalem, le jeune prophète Ésaïe a eu une vision de Dieu extraordinaire, un truc de dingue. Il en a été profondément bouleversé. La présence de Dieu remplissait le temple. Il a eu là, devant la présence de Dieu, un sentiment terrible de bassesse, de saleté, de péché. Mais Dieu l'en a purifié. Et Dieu a alors posé une question à Ésaïe. Qui enverrai-je ? Qui est-ce qui va marcher pour nous, Ésaïe ? Et Ésaïe répond, je suis prêt, envoie-moi. Il aurait pu rester en extase devant la sainteté de Dieu. Il aurait pu se baigner dans la présence de la grâce. Il aurait pu planer à 10 000 pieds. Mais il a dit, je suis prêt, envoie-moi. Est-il possible d'être chrétien, d'être chrétienne et de ne pas le dire ? Ne pas le vivre ? Dans notre église de Mérin, vous entendrez régulièrement des appels d'offres, des propositions concrètes qui doivent nous permettre de nous renseigner et de dire au Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, pour prier, pour donner, pour aller travailler dans une colo pour les enfants, ou ici avec les potes, ou dans une garderie à relancer peut-être, pour participer à un camp d'évangélisation, pour vous former. La HET Pro, c'est extraordinaire pour vous former, pour vous engager concrètement. Les paquets de Noël, la cagnotte pour le véhicule pour Joshua Porter. Le concert Antidote, le 8 décembre. Invité, l'évangile sera proclamé et de très très belle manière. Je conclus. Dieu nous a créés pour une relation d'amour avec lui. Il nous a appelés à nous aimer les uns les autres, à devenir semblables à Jésus-Christ, à le servir dans l'Église. Et il nous envoie maintenant dans le monde avec une mission. À partir du moment où nous portons son nom, nous le représentons. Dans notre petit univers à nous, et bien au-delà, pour le monde entier, individuellement et en tant qu'Église. Si jamais ce matin cette vision des choses était nouvelle pour vous, ou si nous l'avions négligée ces derniers temps, il serait peut-être bon que nous nous tournions vers Dieu maintenant, dans la prière. Alors je vais encore vous proposer une ultime prière que nous pourrons dire ensemble. Et puis après cette prière, on ouvre un moment de prière libre qu'Eliott viendra conclure. Et je vous propose la prière suivante. Vous pouvez la lire et puis dans quelques instants, vous joindre à moi si vous le souhaitez, la dire à haute voix. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton amour et pour ta grâce généreuse. Merci de m'avoir sauvé, accepté, relevé et de me garder en sécurité. Merci aussi pour la confiance que tu me portes. Je ne veux pas garder ces trésors précieux pour moi seul. Je te prie de m'aider, de m'inspirer, de m'équiper, de me rendre courageux pour les partager. Dans mon petit univers, dans le monde qui ne m'est pas familier et dans le monde entier. J'ai besoin de ton aide, je ne connais pas tous les contours, mais je veux m'engager pour toi, avec toi, dans le nom de Jésus. Amen. Et nous poursuivons par un temps de prière libre. Eliott, je te laisse conclure.
rappelle, peut-être que nous avons peur de nous engager, parce que c'est de l'inconnu. Et nous te prions, Seigneur, accepte notre disponibilité, même si nous sommes faibles. Et rends-nous forts, Seigneur, par ton esprit, tel que tu le voudras, afin que ton nom soit proclamé par notre vie, simple, authentique, riche de toutes tes bénédictions, de ton amour, de la réalité de ton existence, de ta force que tu communiques à notre cœur par Jésus. Amen.
Seigneur, je te remercie parce que tu as fait de nous les bases. Père, nous te prions de nous remplir, Seigneur, car nous n'avons pas de force. Conduis-nous chaque jour, Seigneur. Afin que nous puissions parler de toi, Seigneur, pour tout le monde. Que nous puissions conduire l'évangile comme tu le désires, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, d'enlever les barrières aussi, Seigneur. Qui nous permettent, mon Dieu, qui nous permettront d'avancer. Père, sois le contrôle. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Et conduis-nous, conduis chacun de nous, Seigneur. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est le nom de Jésus-Christ.
Seigneur, merci parce que ton désir, c'est que nous soyons chacun sauvés. Et je te remercie pour cet amour immense que tu as pour chacun. Et Seigneur, bénis-nous à notre tour de transmettre cet amour, de transmettre cette bonne nouvelle dans nos familles, auprès de nos voisins, auprès de nos prochains, Seigneur. Merci parce que nous avons tous une mission et Seigneur, avec toi, nous pouvons marcher sur ce chemin de vie et de vie en abondance. Alors, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Seigneur, dans le monde dans lequel nous vivons, tu nous as appelés. Appelés à parler, à vivre comme toi, appelés à aimer. Comme tu nous as transformés par cet amour, transforme les personnes qui nous entourent par ce message si beau que tu nous as offert par ton sacrifice. Aide-nous à être ce dont ce monde, cette planète, a si besoin. Un oasis, un lieu de repos, de calme, dans la tempête de nos quotidiens, dans les petites et dans les grandes souffrances. Apprends-nous à comprendre ce monde pour que nous puissions le toucher. Inspire-nous à aimer, à ne pas juger, même lorsque nous n'arrivons pas à comprendre. Accompagne-nous, le groupe de jeunes cet été. Accompagne cette jeune génération dans son témoignage auprès des plus jeunes et des plus âgés aussi. Accompagne aussi cette génération plus âgée à recevoir notre témoignage, mais en plus à donner le leur pour nous guider dans cet avenir. Merci parce que tu nous pardonnes, même lorsque nous faillissons. Merci parce que tu nous aimes malgré nos échecs. Et merci pour cette mission que tu nous as toutes et tous donnée. Au nom de Jésus, amen. Je vous invite à nous rejoindre pour un dernier chant.
à rester debout pour la bénédiction. Je lis un verset dans Jean 12, verset 46. C'est Jésus qui dit « C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde, afin que tout homme qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors je vous invite à commencer cette semaine et à vivre cette semaine en vous rappelant que Dieu est à vos côtés et que vous pouvez être un témoin là où vous êtes. Amen. Bon dimanche.